Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est le quiz biblique, chers amis auditeurs, auditrices. Bonjour Sandrine.
Bonjour Jérôme.
Bonjour à tous, amis auditeurs, auditrices de Radio Maria France. Vous êtes déjà prêts à intervenir. Vous êtes déjà même en train d'appeler. Voilà, j'entends le téléphone. Bon, la sonnerie est assez classique, hein, le choix de sonnerie qu'on a fait. C'est une sonnerie à l'ancienne. Voilà, le quiz biblique, c'est parti. Après un temps encore d'interruption, voilà. Aujourd'hui, nous avons, bien comme chaque fois, des questions à vous poser. Donc, pour cela, c'est un échange, un jeu interactif. On a besoin de vous. Lorsque Dieu commença la création du ciel et de la terre était déserte et vide. Un petit peu comme la téléphonie en régie. Et la ténèbre à la surface de l'abîme. Le souffle de Dieu planait à la surface des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit. Et Sandrine dit, prenez vos téléphones. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu sépara la lumière de la ténèbre. Dieu appela la lumière jour et la ténèbre, il l'appela nuit. Il eut un soir, il eut un matin. Premier jour. Oui, je vais commencer à lire la Bible, à mes auditeurs, vous l'avez bien compris. Hein. Dès le début, je vais lire toute la Bible, enfin, avec le temps qui nous est imparti, donc toute non, mais en tout cas jusqu'au bout, en attendant que vos appels, en fait. Dieu dit. Qu'il y ait un firmament au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Je précise à nos amis auditeurs que c'est la traduction de la traduction œcuménique de la Bible. Dieu fit le firmament et il sépara les eaux inférieures au firmament d'avec les eaux supérieures. Il en fut ainsi. Dieu appela le firmament ciel. Il eut un soir, il eut un matin, deuxième jour. Dieu dit que les eaux inférieures au ciel s'amassent en un seul lieu et que le continent apparaisse. Il en fut ainsi. Dieu appela terre le continent. Il appela mer l'amas des eaux. Dieu vit que cela était beau. Et je crois que nous avons des appels.
Oui, nous avons trois personnes. Alors, dans l'ordre d'arrivée, Jean-Mathieu, Jeanne et Marie-Lourde.
Ouh là 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 là!
Bonjour.
Bonjour à tous les trois.
Bonjour, bonjour.
Bonjour, bonjour Jean-Mathieu.
Bonjour.
Bonjour Jeanne, c'est Jeanne?
Oui.
Non, c'est pas Jeanne. Jeanne, elle est là maintenant.
Oui,
d'accord. Bonjour Jeanne. Bonjour.
Et Marie Lourde avec nous. Bon,
Oui, ça fait longtemps.
ça fait longtemps, Marie Lourde.
Ben, moi aussi, ça fait longtemps.
Bonjour Jeanne, ça fait longtemps aussi.
Oui.
Jean-Mathieu, ça fait un peu moins
Oui,
longtemps.
ça fait moins
ben,
longtemps.
Jean-Mathieu, il est rigueux, il est rigaud. Il est
Oh,
régulier, lui.
non. Pas souvent.
Il est quand même assez régulier, Jean-Mathieu, hein, si
Oui,
Jean-Mathieu, quand même. Assez
si.
régulier, quand même. Eh bien, écoutez, dans l'ordre d'appel, donc on va commencer les premières questions, on va commencer avec Jean-Mathieu. Et en tout cas, merci à tous les trois, bienvenue dans ce quiz biblique. Et c'est peut-être le dernier quiz biblique, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain, après-demain.
Ah, c'est sûr.
Profitons-en donc, allons-y à fond. Est-ce que Jean-Mathieu, vous êtes prêt pour la première question? Alors, je rappelle quand même que Jean-Mathieu nous appelle. Ce que j'aime bien, c'est bien de situer aussi géographiquement, hein, de Villefranche, hein, du côté du département du Rhône. Alors Jeanne est dans le Grand Est, du côté de Mulhouse. Et Marie-Lourde?
À Paris,
À
de Paris, ouais.
Paris, à
Ah,
Paris.
je croyais qu'elle était de Lourdes, moi.
Voilà, ah non, c'est pas Paris-Lourdes, hein, c'est Marie-Lourde.
Ça, c'est comique.
Alors c'est parti, première question pour Jean-Mathieu. Alors dans la Bible, Jean-Mathieu, on trouve quand même pas mal de prophéties. Hein.
Oui.
Et il ne faut pas attendre très longtemps d'ailleurs pour trouver la première de ces prophéties. Alors la question, elle est courte, elle est simple. Où trouve-t-on cette première prophétie biblique? Voilà Jean-Mathieu, possibilité des réponses. Est-ce qu'on la trouve, cette première prophétie biblique, au début du livre de la Genèse, ou bien, deuxième possibilité, à la fin du livre de la Genèse, ou bien dans le livre de l'Exode, cette troisième possibilité?
Livre de l'Exode, je pense.
Livre de l'Exode, troisième possibilité pour Jean-Mathieu. Est-ce que Marie-Lourdes et Jeanne, vous êtes d'accord? Elle n'est pas facile, on peut y aller au pifomètre. Le pifomètre marche très bien, on l'a expérimenté dans les émissions précédentes.
Je pense que c'est Jeanne qui répond avant, ou moi?
Oui. Comme vous voulez.
Je pense que c'est la Genèse.
Alors, Genèse, début ou plutôt la fin du livre? Parce que c'est quand même un livre important, la Genèse. Un livre qui fait...
Voilà, je ne sais pas, c'est mieux la fin.
Début.
On en est quand même à 49, attendez, je ne dis pas de bêtises, hein, 50 chapitres hein, de la Genèse. Hein, c'est pas
début,
un petit livre.
Oui, quand même, oui.
Et oui, c'est le début du livre de la Genèse. Donc c'est très rapide, hein, cette première prophétie apparaît dans le chapitre 3, verset 14-15, que je vous lis. Alors, il y avait Dieu...
Ah, verset 3, mais moi j'étais le chapitre, pardon.
Chapitre 3, oui, chapitre 3, verset 14, 14-15. Alors Yahvé, Dieu, dit au serpent, parce que tu as fait
oui,
cela, maudit sois-tu entre tous les bestiaux et toutes les bêtes
oui, c'est
sauvages.
Ce que j'ai pensé.
Tu marcheras, tu marcheras sur le ventre et tu mangeras de la terre. Tu mangeras de la terre tous les jours de ta vie. Je mettrai, c'est la prophétie,
c'est le chapitre.
Le cœur de la prophétie, je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ton lignage et le sien. Il t'écrasera la tête et tu l'atteindras au talon. Voilà,
c'est bon, j'ai trouvé alors.
Première prophétie, donc 3, 14, 15 pour les versets. Première prophétie qui est un résumé d'ailleurs d'un grand nombre de prophéties qui vont apparaître ensuite dans la Bible et qui sont bien sûr en lien étroit avec le drame que vit l'humanité dans le conflit entre le bien et le mal. Les autres prophéties de la Bible d'ailleurs viendront éclairer l'un ou l'autre aspect de ce conflit. Et la gloire finale, mes amis auditeurs, la gloire finale est annoncée par ces mots. Celle-ci t'écrasera la tête, ce qui symbolise...
L'Apocalypse.
Voilà. Et on retrouvera dans l'Apocalypse...
On le retrouve.
Et oui, la boucle est bouclée, mais en même temps, c'est la victoire du bien, la victoire finale du bien, ce qui symbolise la victoire du Messie sur le serpent.
Ah,
voilà,
oui.
Et donc cette première prophétie de la Bible prédit déjà, dans le livre de la Genèse, au tout début, que l'humanité remportera la victoire sur le mal sous toutes ses formes, grâce à un descendant de la femme, le Messie promis. Eh bien, c'est parti, nous sommes partis, et nous poursuivons cette fois avec Jeanne, hein, toujours dans l'ordre des appels. Jeanne, are you ready?
Oui, je suis.
Alors Jeanne, quel grand prophète? Quel grand prophète a déambulé nu et sans chaussures pendant 3 ans. Imaginez un peu.
Oh là, c'est dur. Hein.
Nu et sans chaussures pendant 3 ans dans les rues de Jérusalem.
Ah, je crois que j'ai des chaussettes, moi.
Pour dénoncer les alliances politiques d'Israël. Israël faisait des alliances et le prophète a dit non, c'est pas la voix de Dieu. Il a donc déambulé nu et sans chaussures pendant 3 ans. Quel est donc ce prophète? 3 possibilités. S'agit-il d'Isaïe, de Jérémie ou d'Ézéchiel?
Jérémie
pour Jeanne.
Ézéchiel.
Ézéchiel pour Jean-Mathieu. Marie-Lourdes?
Le premier.
Isaïe, et c'est Marie-Lourdes qui trouve la réponse. Et oui, c'est le premier.
Ah, bravo! Un point.
Merci.
Et oui, c'est Isaïe. Vous trouvez ça... Bon, elle n'est pas facile, hein, il faut l'admettre. Qui se souvient de ce passage?
Vous pouvez lire le verset, Jérôme?
Oui, c'est le chapitre 20, versets 1 à 6.
20
à 6.
1 à 6. 20 à 6.
Non, chapitre... 26. Non, chapitre
20.
Chapitre 20, versets voilà. 1 à 6.
Chapitre 6.
Jean-Mathieu, il a le chiffre de parler, alors j'entends rien.
Alors Jean-Mathieu, il faut laisser Jeanne écouter.
C'est pas grave.
Alors, à partir de 714 avant Jésus-Christ, pendant 3 ans jusqu'à la chute de la ville d'Ashdod en 711, le prophète Isaïe déambule nu et sans chaussures dans les rues de Jérusalem. Alors, le prophète est-il devenu fou? Pas du tout.
Ah non, c'est pas ça.
Pas du tout. La Bible explique clairement la raison pour laquelle le prophète agit de la sorte. Mon serviteur Isaïe est allé nu et déchaussé pendant 3 ans, signe et présage contre l'Égypte et la Nubie. Parce que les Judéens voulaient faire alliance avec les Égyptiens et les Nubiens pour arrêter la progression de l'armée assyrienne. Ah, alors, d'accord. En déambulant nu et déchaussé, le prophète Isaïe cherchait à heurter la sensibilité de ses contemporains pour qu'ils renoncent à cette alliance. Parce que les Judéens avaient fondé de grands espoirs avec ces deux pays, en s'alliant avec ces deux pays, pensaient qu'ils allaient tout remporter. Dieu savait que cette alliance se solderait par une défaite.
C'est comique.
Voilà pourquoi Dieu dénonce cette alliance. Voilà. Alors il faut quand même noter, c'est impressionnant quand même, hein, c'est parlant, oui. C'est-à-dire que ces gestes prophétiques, ils sont là aussi pour capter l'attention, quand la parole ne suffit plus. La parole du prophète, il l'a dit, ne faites pas ces alliances. Et puis ils n'écoutent pas, hein, bien sûr, ils n'écoutent pas, ils suivent leurs alliances. Et donc il en vient à montrer, par cette situation, 3 ans, nu et déchaussé, qu'il faut ne pas accomplir cette alliance. Voilà, c'est des images chocs qui devaient susciter la réaction des auditeurs afin qu'ils prennent position par rapport à Dieu. Voilà, moi-même j'avais oublié cet épisode d'Isaïe.
Oui, déambulant. Oui, voilà. Isaïe en fait, oui.
Eh bien, chers amis auditeurs, nous sommes dans le quiz biblique et nous avons avec nous Sandrine, accompagnée d'une flopée d'animaux.
Et... Ah oui, les animaux.
Sandrine.
Alors, je tiens à quand même...
On est dans la savane ici.
Je tiens à préciser que chez nous, le roi des animaux à Radio Maria, ce n'est pas le lion.
C'est l'agneau.
C'est l'agneau. Et c'est oui, l'agneau. C'est l'agneau. Et alors, nous continuons dans ce quiz biblique avec Marie Lourdes.
Oui.
Marie Lourdes, qui se trouve bien à Paris, non pas à Lourdes. Question assez courte. Quel prophète de la Bible hébraïque a un nom qui signifie que Yahvé se lève ? C'est la signification de son nom, que Yahvé se lève. Alors Marie-Laure, 3 possibilités. S'agit-il d'Isaïe, de Jérémie ou d'Osée ?
Osée, à tout hasard.
Tu oses oser. Alors, Jeanne, Jean-Mathieu, est-ce que vous êtes d'accord avec Marie-Laure ?
Jérémie
pour Jean-Mathieu, c'est la bonne réponse. C'est bien Jérémie que Yahvé se lève. Voilà la signification de son nom.
Ça aurait dû être là maintenant, c'était Jérémie.
C'était Jérémie. Alors c'est vrai que les noms hébreux avaient une signification.
Oui.
Voilà. Eh bien, nous poursuivons ce quiz biblique avec... On revient vers Jean-Mathieu. Jean-Mathieu, il est là. Alors Jean-Mathieu...
Je suis présent.
On reste encore un petit peu avec les prophètes, hein. Alors, quel est le nom de l'autre prophète avec qui Jérémie va avoir une altercation ? Il y aura une dispute entre Jérémie et cet autre prophète, et cette dispute va prouver à la fin que c'est Jérémie qui est le vrai prophète de Dieu. Alors, elle n'est pas facile, hein, je reconnais, hein, Jean-Mathieu, qu'elle n'est pas facile, parce que dès qu'on est dans l'Ancien Testament, c'est tellement vaste, on ne connaît pas tous les passages, loin de là. Alors, en tout cas, comment s'appelle donc ce prophète avec qui il y aura une dispute avec Jérémie ? Gédéon, Josué, Anania. Alors, il y a peut-être pour aider, il y en a qui ne sont pas prophètes hein, dans cette liste. Gédéon, Josué, Anania. Quel est le nom de ce prophète avec qui Jérémie va se disputer ?
Gédéon.
Alors, Josué pour Jean-Mathieu, j'ai entendu. Gédéon, Jeanne, qui chuchote Gédéon, mais on l'entend complètement.
J'ai pas chuchoté, j'ai parlé.
Ah bon ? Et Marie Lourdes, une idée aussi ?
L'autre, c'était qui ?
Anania.
Anania, ça me dit.
Alors,
Anania, je sais plus dans quel...
Alors, Anania,
c'était celui qui est allé voir... Non, là, je me trompe. Ananias ?
Alors, c'est pas Ananias qu'on trouve dans le Nouveau Testament. Hein.
Non.
Lui, on le trouve dans les Épîtres de Saint Paul, non ?
Oui. Oui, là on parle vraiment de... Là, on est chez les prophètes, on est chez Jérémie.
Les prophètes, oui.
Chez Jérémie.
Gédéon.
Alors, elle n'est pas facile, c'est vrai. Donc, Gédéon pour Jean-Mathieu... Non, pour Jeanne et Marie-Lourdes. Josué pour Jean-Mathieu. Eh bien, c'est Anania. Effectivement, il y a effectivement un Ananias. Ananias
oui.
ou Anania.
C'est Ananias.
Qui est un autre personnage dans le Nouveau Testament, oui. Alors là, ce Anania, qui est écrit là dans la traduction œcuménique de la Bible avec un H au début.
Ah, c'est avec un H.
Ah bon, un H ?
Et un Y à la fin. H-A-N-A. Alors, il y a peut-être d'autres écritures selon les Bibles. Hein. Là, je vous parle de...
Bible de Jérusalem.
Alors, je ne sais plus si c'est... Parce que j'utilise à la fois la Bible de Jérusalem et la Tob, hein, la traduction œcuménique. Donc, je ne sais plus si c'est l'un ou l'autre. Mais en tout cas, là, ce que j'avais sous les yeux, c'était H-A-N-A-N-Y-A. Et vous trouvez ça dans le chapitre 28, Jérémie 28.
Jérémie 28.
Vous trouvez cette dispute... Et Jérémie va prouver aux Israélites la véracité de ses songes, après donc cette altercation avec ce fameux Anania, à partir du verset 1, chapitre 28, verset 1. On est au 6e siècle avant Jésus-Christ. Et Jérémie va même annoncer la mort de Anania pour l'année à venir, car ses prophéties ne sont pas divines, et qu'il s'est attiré la colère de Dieu, alors qu'il a prophétisé le retour de la paix. Et effectivement, Anania va mourir le 7e mois de l'année annoncée.
D'accord.
Alors, vous pouviez éventuellement trouver, parce que Gédéon, dans les réponses possibles hein, qui étaient données au départ, là, Gédéon, c'est pas vraiment un prophète, hein, c'est un personnage.
Non, je me suis trompée.
C'est un personnage
fait,
biblique du livre
c'est
des juges.
Un guéril, quoi.
Un personnage biblique du livre des juges, il est de la tribu de Manassé. Et Josué, la troisième possibilité qui était donnée, là, c'est le successeur de Moïse, Josué, dans la conduite du peuple hébreu vers la terre promise.
Jourdain, les a conduits jusqu'au Jourdain.
Et voilà, il a même traversé le Jourdain. Et pour la conquête du pays de Canaan, pour y installer les tribus d'Israël. Et avec Jeanne.
Oui.
Are you ready?
Ben, on va faire le possible, oui. Je suis avec vous.
Jeanne est avec nous. Sandrine, es-tu avec nous? Alors Jeanne, on va rester dans l'Ancien Testament, la Bible, d'après la Bible, quels sont les critères qui permettent de distinguer la vraie prophétie de la fausse?
Ah là là, il y a une piège là.
Qu'est-ce qui permet de distinguer, quels sont les critères qui permettent de distinguer la vraie prophétie de la fausse prophétie? Attention Jeanne, plusieurs bonnes réponses possibles.
Oui.
Alors la conformité, première possibilité, la conformité avec les commandements de Yahvé. Deuxième possibilité, les signes miraculeux. Troisième possibilité, l'accomplissement de la prophétie.
La 2 et la 3.
La 2 et la 3 pour Jeanne.
C'est juste...
Moi, je dirais la 1 et la 2.
Alors, je vais les répéter. Hein. La première possibilité, la conformité avec les commandements de Yahvé dans la prophétie.
C'est possible aussi.
La deuxième, les signes miraculeux.
Les signes.
La troisième, l'accomplissement de la prophétie.
Mais la 1 et la 2, moi, je dirais.
Alors, Jean-Mathieu, la 1 et la 2. Jeanne nous dit la 2 et la 3. Marie-Lourde.
J'ai dit les 3.
Les 3.
Oui, c'est possible aussi.
Eh bien, c'est la 1 et la 3.
C'est la
1
et la
3. Et oui.
La 3, c'est la
1
et la 3.
J'en ai trouvé un, moi.
Le 1 et 3.
Oui, pourquoi? Parce que la 2, c'était les signes miraculeux, mais les signes miraculeux ne sont pas un critère. Pourquoi? Parce que les faux prophètes peuvent aussi accomplir des signes miraculeux. Les faux prophètes en sont capables.
Ah ouais, d'accord.
J'ai pas la tête à ça.
Et oui, donc
les marabouts, ils peuvent faire ça.
Par contre, c'est dans quel... Est-ce que tu peux nous dire le chapitre et le...
Alors là, je n'ai pas pris dans un chapitre en particulier, non. Parce que des faux prophètes, il y en a tout le long. Hein. Donc vous pouvez
il y en a pas mal,
vous pouvez en trouver dans plusieurs livres. Donc là, c'était d'ordre général sur les prophètes. Mais surtout, l'idée là, c'était pas de se référer à un passage particulier, mais à retrouver dans toute la Bible qu'est-ce qui distingue vraiment la vraie prophétie de la fausse.
Oui.
Mais les signes miraculeux, ça ne peut pas être un critère suffisant, en tout cas, parce que des faux prophètes en font. Et on l'a dit hein, à l'instant, il y a beaucoup de faux prophètes dans la Bible, et d'ailleurs des faux prophètes qui peuvent être sincères et complètement s'illusionner, mais des faux prophètes aussi qui peuvent être des simulateurs. Mais en tout cas, de l'extérieur, on ne les distingue pas des vrais prophètes. C'est pour ça que ce n'est pas évident. Et c'est pour ça que le peuple se laisse souvent tromper et séduire.
Et en fait, j'aurais dû être réfléchi, parce que je savais que... Les signes, c'est pas la prophétie, c'est un signe. Les signes, c'est pas ce que j'avais dit.
Ben les signes ne viennent pas forcément que de Dieu.
Ben voilà.
Alors ces faux prophètes, ils trompent le peuple. Et puis du coup, ben, qu'est-ce que font les vrais prophètes? Ben les vrais prophètes, ils sont obligés de polémiquer avec les faux prophètes, comme on l'a vu dans la question juste avant, entre Jérémie et Anania. Alors, comme Anania d'ailleurs, dont on a parlé à l'instant, beaucoup de ces faux prophètes peuvent annoncer la paix alors qu'ils n'ont même pas dénoncé les agissements mauvais du peuple. Et Jérémy va d'ailleurs reprocher à Nania, va dire, mais tu promets la paix, mais tu vois que le peuple fait n'importe quoi et tu le dénonces pas. Alors la difficulté dans cette question sur les faux et les vrais prophètes, effectivement, ils peuvent raconter des bêtises, mais le problème, c'est que ces bêtises, parfois, elles peuvent sembler vraies. Ça peut sembler une prophétie qui est valable à l'oreille de celui qui ne fait pas trop attention. Et c'est pour ça que les faux prophètes aussi peuvent séduire et entraîner des foules. Et c'est pour ça que les vrais prophètes, eux... Et d'ailleurs, ça continue aujourd'hui.
Oui, ça continue.
Et ça continue de nos jours.
Et nous avons... Sœur Jacqueline qui vient jouer aussi avec nous.
Oh là 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 là, Sœur Jacqueline
Marie.
La vie, je crois
qu'on bouclait, hein.
Mais c'est très bien. Sœur
Jacqueline
Marie. Sœur Jacqueline.
Qui arrive.
Sœur Jacqueline, bonjour.
Bonjour tout le monde.
Bonjour Sœur Jacqueline.
J'ai cru qu'il n'y avait pas, je suis sortie, puis maintenant je vois qu'il y a, alors j'ai dit bon, je me lance.
C'est pas grave, parce que Sœur Jacqueline Marie arrive pour le sprint final.
Il pleut dehors.
Ah oui, à saut.
Il pleut pas dedans, il pleut dehors, ça c'est sûr.
Alors, chers amis auditeurs, il pleut en Suisse.
Ah oui,
il pleut au Canada.
Et il fait froid.
La terre a besoin d'eau. Elle a besoin d'être
abreuvée. Oui, non, c'est bon, c'est très bon.
Alors, on continue. On est avec Marie-Lourde, cette fois, pour la question suivante.
Il a.
Alors, Marie-Lourde. Dans l'évangile de Jean, cette fois on part dans l'évangile de Jean, lors du grand discours de Jésus à ses disciples, à la suite du dernier repas, il y a un grand discours de Jésus là, à la fin de l'évangile de Jean. Quel disciple demande à Jésus « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit ». Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Trois possibilités, Marie-Lourde. S'agit-il de Thomas, de Philippe ou de Pierre ?
De Philippe.
C'est une excellente réponse de Marie-Lourde.
Ouais, bravo.
On est dans Jean, chapitre 14, verset 8. Et d'ailleurs, on a eu la même situation, enfin une situation à peu près similaire avec Pierre, chapitre 13, verset
3. Oui, oui.
Avec Thomas, au chapitre 14, verset 5.
Voilà, c'est ça.
Philippe, comme Pierre et Thomas, n'a pas encore reconnu Jésus et il se méprend sur la personne qu'est Jésus. Voilà, donc vous pouvez reporter à ce chapitre 14, verset 8 dans Jean. C'est Philippe qui pose la question. Excellente réponse de Marie-Lourde. On continue avec Sœur Jacqueline. Sœur Jacqueline, êtes-vous prête? Alors, j'ai trouvé une question bien utile, parce que Sœur Jacqueline Marie, je choisis, c'est la seule personne pour qui je choisis les questions, je les sélectionne exprès.
Oh,
qu'il est pénible ce Jérôme. Alors, Sœur Jacqueline Marie, dans l'évangile, on est dans l'évangile de Luc. Évangile de Luc, au cours du récit du baptême du Christ, nous entendons la voix du ciel qui dit « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré ».
Oui.
Vous vous souvenez de cette belle parole au nord du baptême. Alors ce verset, « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré », ce verset reproduit une parole de l'Ancien Testament. Dans quel livre trouve-t-on cette parole? Trois possibilités, Sœur Jacqueline Marie. Le livre d'Isaïe, le livre de la Genèse, ou le psaume 2.
Le psaume 2, je crois.
Et c'est une excellente réponse de Sœur Jacqueline Marie.
Elle a pas hésité, là, direct.
Aucune hésitation. Psaume 2, c'est le verset 7 hein, de ce psaume 2. Alors ce psaume d'ailleurs, si vous le connaissez tous très très bien, il commence ainsi. Pourquoi cette agitation des peuples, ces grondements inutiles des nations? Et c'est simplement au verset 7 qu'on trouve « Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré ». Alors c'est intéressant, cette formule, on la trouve également un peu similaire dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 7, verset 14, qui dit « Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils
». Oui,
prophétie
oui,
de Nathan. Cette formule qui sera donc appliquée à l'intronisation messianique de Jésus lors du baptême. Et on entend la colombe.
J'ai bien fait de venir.
Vous avez très bien fait de venir, Sœur Jacqueline Marie. Et nous poursuivons avec Jean-Mathieu. Jean-Mathieu.
Oui.
Alors, on sait que dans les évangiles synoptiques, hein, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc, les évangiles synoptiques, Jésus n'est monté qu'une seule fois à Jérusalem, et d'ailleurs pour y vivre sa passion.
Oui.
Mais le quatrième évangile, Jean, indique plus qu'une seule montée de Jésus à Jérusalem. Alors, combien y a-t-il de montées à Jérusalem dans Jean? Trois possibilités, Jean-Mathieu. Est-ce qu'il y a deux montées à Jérusalem? Trois ou quatre?
4.
4 pour Jean-Mathieu. Alors, sœur Jacqueline-Marie, Marie-Lourde, Jeanne, est-ce que vous diriez la même chose? 2 montées, 3.
3.
3 sûres. 3 sûres, oui.
3. Et Marie-Lourde?
Je dirais 2.
2 pour Marie-Lourde. Eh bien, c'est Jeanne et sœur Jacqueline-Marie qui ont raison. C'est... Oui, c'est 3 montées à Jérusalem. Alors, les références. Jean, alors, chapitre 2, verset 13.
Chapitre 2, verset 13.
Chapitre 5, verset 1.
Chapitre 5, verset 1.
Et chapitre 12, verset 12.
12, verset 12.
Voilà, Jean qui mentionne bien 3 montées à la ville sainte à l'occasion des fêtes, et non une seule à la fin de sa vie terrestre. Alors, les historiens, spécialistes, biblistes, etc., ils pensent que Jean est plutôt dans le vrai. Parce qu'on pense que, effectivement, Jésus, dans sa prédication, il ne s'est pas abstenu de participer au grand pèlerinage festif à Jérusalem et religieux. Il voulait s'adresser à tout Israël, et la ville sainte ne pouvait pas rester en dehors de son champ d'action et de prédication. Et c'est Jean, quand même, qui mentionne que cette prédication de Jésus, elle a duré peut-être à peu près 3 ans. Alors que si on lit les...
Parce qu'il est monté, à 12 ans, il est monté, ouais.
Oui, alors, non.
Il a parlé dans le temple.
Non, mais 3 ans, c'est sans compter l'enfance. Sans même compter l'enfance de Jésus. On pense que ça a duré 3 ans. Parce que si on regarde les synoptiques, on a l'impression que tout s'est déroulé sur une année, entre le début de la prédication et la passion. Alors qu'en fait, on pense que cette prédication a été plus longue. Elle a duré au moins 2-3 ans. Et c'est Jean qui nous donne cette information importante. Il est quelle heure? On a encore le temps pour une question. Il y a un petit bruit de fond, là, ça vient d'où?
Oui, effectivement, oui.
C'est la chaudière, ça?
C'est la chaudière. Alors, dernière question pour tous les 4. Est-ce que vous êtes prêts?
Oui.
Ah, il y a quelqu'un qui a ramené des chatons. C'est n'importe quoi, hein, ce studio. C'est tout le monde rentre.
Ah, mais c'est trop mignon.
C'est l'Arche de Noé.
Mais c'est bien.
Et c'est le déluge en Suisse.
L'Arche de Noé, il n'y avait pas de chat, je crois pas.
Ah,
bah, un peu.
Ah si, il y avait tous les animaux hein, dans l'Arche de Noé.
Tous les animaux, c'est vrai, c'est marrant.
Un représentant mâle et femelle de toutes les espèces.
Bah oui, c'est toute la création de Dieu, oui.
Alors, sœur Jacqueline-Marie.
Oui.
Marie-Lourde.
Oui.
Jeanne.
Oui.
Jean-Mathieu, est-ce que vous êtes présent?
Oui.
Alors, je vous la pose à tous les 4. Plusieurs paraboles du Nouveau Testament, et versets de la Bible d'ailleurs, aussi dans l'Ancien Testament, utilisent l'image d'une fleur. L'image d'une fleur pour illustrer la vie humaine, ou pour illustrer un vêtement ou des parties du corps humain. Par exemple, dans Luc, considéré comme croisse, et là je ne vous dis pas le nom, il ne travaille ni ne file, cependant je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. De quelle fleur s'agit-il? Alors vous avez 3 possibilités. Le narcisse, le coquelicot ou le lys?
Le lys.
Le coquelicot.
Ah, qui c'est qui a dit lys en premier là tout de suite?
Moi.
Jacqueline-Marie.
C'est Jacqueline
Marie, oui. Et oui, elle a répondu plus vite. Hein. C'est la bonne réponse. C'est bien le lys.
C'est ce que j'ai dit. Mais on n'entend pas parce qu'il y a quelque chose qui est derrière.
Oui, il y a un bruit de fond.
Qui est dérangeant.
Donc la bonne réponse, c'est bien le lys.
Le lys, c'est ce que j'ai dit, moi.
Et c'est une bonne réponse. Et on trouve le lys mentionné dans plein d'endroits, le Cantique des Cantiques.
Oui.
Par exemple, ses joues sont comme un parterre d'aromates, une couche de plantes odorantes, ses lèvres sont des lys, d'où découle la myrrhe. Ça, c'est dans chapitre 5, verset 13, Cantique des Cantiques. On le trouve chez le prophète Osée, chapitre 14, verset 4 à 7. Je réparerai leur infidélité, j'aurai pour eux un amour sincère, car ma colère s'est détournée d'eux. Je serai comme la rosée pour Israël, il fleurira comme le lys. Et on trouve ça, bien sûr, chez Matthieu. Pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent, etc., etc. Et dans Luc, bien sûr, chapitre 12, verset 27.
Luc 12, 27.
Excellente réponse. Eh bien, en tout cas, on arrive au terme, puisque c'est bientôt la prière d'éveil. Puis, en ce bruit, on n'a pas trouvé la source. Merci beaucoup à tous les 4. Merci Saint-Jacques-Marie.
Merci
Marie-Lourde. Merci Jeanne.
Oui.
Merci à vous tous.
Soyez bénis.
Voyage à Jérusalem.
À bientôt pour, à Jérusalem. Au revoir à tous. Merci beaucoup.
Au revoir à tous.
Soyez bénis.
Soyez bénis.
Au revoir.
Soyez bénis.
Merci. Au revoir. Jérôme ?
Oui ?
Je voudrais souhaiter un bon anniversaire à ma fille qui m'écoute en ce moment.
Ah, comment s'appelle-t-elle ?
Christelle.
Christelle. Bon anniversaire, Christelle.
Merci.
Au revoir.
À bientôt.
Merci.
Au revoir.
Au revoir. À bientôt.
À bientôt.
Soyez bénis.
Merci, Sandrine.
Merci, Jérôme.